Bonjour, vous êtes bien sur RFI, 23h à Goma, minuit à Moscou, et c'est l'heure du journal.
Théo Renaudon.
L'ancien président congolais Joseph Kabila annonce se rendre à Goma dans les prochains jours. Il critique violemment dans une prise de parole le pouvoir en place au lendemain de sa levée de la levée de son immunité parlementaire. Échange inédit de prisonniers entre Ukraine et Russie. 1000 soldats captifs sont concernés de chaque côté et doivent être libérés d'ici dimanche. Et puis, il a montré le pire et le meilleur avec de mythiques photos clichés en noir et blanc. Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado est mort. Dans un discours prononcé ce vendredi soir, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, annonce qu'il se rendra à Goma dans les prochains jours, au lendemain de la levée de son immunité parlementaire. Il dénonce des décisions arbitraires prises par Kinshasa à son encontre et critique sans détour le pouvoir de son successeur. La dictature doit prendre fin, a notamment déclaré Joseph Kabila. Écoutez.
Pour sauver le Congo, les griefs légitimes du peuple congolais contre le régime en place ne peuvent être éludés. La dictature doit prendre fin et la démocratie, tout comme la bonne gouvernance économique et sociale, doivent être restaurées. Car, comme en témoigne l'histoire, il ne peut y avoir de solution sécuritaire définitive sans solution politique sincère. Sinon, il y aura de nouvelles vagues de convulsions politiques, de troubles à la paix, d'insécurité, d'instabilité institutionnelle, de conflits armés et de guerres civiles. Perspective qu'en toute responsabilité, nous Congolais ne pouvons plus nous permettre.
L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Échange record de prisonniers entre Russie et Ukraine, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump ce vendredi. 1000 captifs sont concernés de chaque côté, une opération qui a lieu en ce moment même à Moscou, Anissa El-Jabri.
390 citoyens russes ont été libérés selon les chiffres officiels rendus publics, dont 270 soldats et 120 civils, certains étant des habitants de la région de Koursk suite à l'attaque éclair lancée par l'Ukraine en août dernier. Cet échange en cours est le plus important depuis le début du conflit. Il est présenté comme le résultat concret des pourparlers chaotiques d'Istanbul. C'est en tout cas loin d'être une première. Jusqu'ici, les deux parties ont toujours procédé à des échanges. Le procédé secret s'est toujours tenu entre les deux armées. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et lorsque l'échange sera terminé, Moscou doit transmettre à Kiev un document exposant ses conditions pour mettre fin à la guerre, annonce de la diplomatie russe ce vendredi. Nouvelle menace de guerre commerciale, cette fois de Donald Trump contre l'Union européenne. Il menace ses alliés de les assommer avec des droits de douane de 50% dès dimanche de la semaine prochaine. Selon le président américain, l'Union européenne a été créée pour faire du mal aux États-Unis. Fin de citation. Une femme de 30 ans a poignardé plusieurs Allemands dans la gare de Hambourg au nord du pays. 17 blessés sur un quai de cette ville, la deuxième la plus peuplée d'Allemagne. Le pays subit depuis des mois, des attaques meurtrières à répétition. C'était l'une des exigences de Washington pour lever les sanctions en Syrie, que le nouveau pouvoir d'Ahmad el-Shara fasse pression sur des combattants palestiniens en lien avec l'Iran pour les obliger à quitter la Syrie, où ils jouissaient d'une totale liberté de mouvement depuis Bachar el-Assad et où ils pouvaient agir facilement contre Israël. C'est désormais chose faite, selon l'un de ses chefs cité par l'AFP. Pour l'expert du pays, Thomas Pierret, le pouvoir syrien y gagne aussi en crédibilité auprès même d'Israël.
Il y a aussi une politique assez active de la part du gouvernement syrien aujourd'hui de vouloir à tout prix rassurer Israël. Tout simplement parce que depuis son arrivée au pouvoir en décembre dernier, le régime syrien, enfin, le nouveau pouvoir syrien a été constamment bombardé, attaqué par Israël. Il n'est absolument pas en mesure de faire face à ces attaques. Et donc il cherche un moyen de calmer les choses et que l'image de l'Iran l'Iran, dans l'immense majorité de la population syrienne, est désastreuse, du fait du soutien de l'Iran à l'ancien régime de Bachar el-Assad. Et que donc, il est assez peu coûteux politiquement de s'en prendre à des gens qui sont accusés, souvent à raison, d'avoir été très proches, soutenus directement par l'Iran. Il y a des bénéfices, on va espérer, du côté américain et israélien, et un coût politique qui est assez limité pour l'instant.
À Gaza, des camions d'aide humanitaire pillés. La nuit dernière, ils contenaient de l'aide alimentaire. De nombreux Palestiniens ont faim après 2 mois de blocage de l'aide humanitaire par Israël qui rentre de nouveau depuis plusieurs jours. Les Palestiniens subissent la période peut-être la plus cruelle du conflit, s'est indigné le patron de l'ONU, Antonio Guterres. L'aide humanitaire entre enfin, mais ce n'est qu'une pincée de sel alors qu'un déluge serait nécessaire, s'est insurgé le secrétaire général de l'ONU. En Turquie, 45 personnes placées en garde à vue ce vendredi. Nouvelle séquence dans la vaste opération lancée par le pouvoir en place contre la municipalité d'Istanbul et son maire, Ekrem İmamoğlu. Principal rival, Ekrem İmamoğlu, politique du président Recep Tayyip Erdogan à Ankara, Céline Pierre Magnani.
45 personnes ont été placées en garde à vue ce matin, d'après l'agence gouvernementale Anadolu. Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans l'opération lancée contre la mairie d'Istanbul depuis le 19 mars. Les suspects sont accusés d'avoir pris part à un réseau de corruption orchestré par le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, lui-même emprisonné depuis le 23 mars. Chaque coup de filet ratisse un peu plus large dans l'entourage du maire. La secrétaire particulière de l'édile ainsi que 2 responsables d'entreprises municipales figurent aujourd'hui sur la liste. Les accusations contre İmamoğlu reposent essentiellement sur le témoignage de personnes sous anonymat et ce dernier conteste fermement les charges retenues contre lui. Son arrestation est le dernier volet d'une longue persécution administrative et des centaines de milliers de Turcs étaient descendus dans les rues pour protester. Les opposants de Recep Tayyip Erdogan l'accusent d'utiliser la justice pour éliminer son adversaire le plus sérieux. Lors d'un discours devant son groupe parlementaire le 15 mai, le président avait lancé l'idée d'une réforme des prérogatives des mairies qui pourrait réduire la marge de manœuvre des collectivités territoriales. Le parquet d'Istanbul a également interdit la diffusion de photos et de vidéos d'Ekrem İmamoğlu dans les transports en commun à Istanbul. Céline Pierre Magnani, Istanbul, RFI.
Tout n'est pas tout à fait revenu à la normale entre l'Inde et le Pakistan. Islamabad prolonge d'un mois l'interdiction de son espace aérien aux avions indiens. L'Inde a fait pareil. Il y a 15 jours, les deux pays, frères ennemis, ont connu leurs pires affrontements militaires de l'histoire. 70 morts par drones, missiles et tirs d'artillerie. Le groupe français Total Energy assure qu'il maintient ses objectifs de transition écologique. Et ce, en dépit du contexte économique mondial incertain dû aux guerres commerciales américaines. Message adressé à ses actionnaires réunis en assemblée générale aujourd'hui à Paris, à l'intérieur de l'immense tour de verre siège du groupe. À l'extérieur, des militants écologistes se sont rassemblés pour dénoncer la poursuite de l'exploitation d'énergie fossile par Total Energy. Des photos en noir et blanc montrant le pire des hommes et le meilleur de notre planète. Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado est mort. Il avait 81 ans. L'autodidacte a photographié toute la planète, rien que la planète, du Rwanda à l'Indonésie, de la guerre à la paix. Son portrait par Edmond Sadaka.
Un chasseur de lumière dans un monde de ténèbres. Voilà comment le président brésilien Lula décrit le travail de Sebastião Salgado. Car le photographe avait approché de très près, en effet, les ténèbres aux quatre coins de la planète, du Rwanda au Guatemala en passant par l'Indonésie ou le Bangladesh. Derrière son objectif, il a su capter les tragédies humaines, les exodes, les guerres, les famines, des épreuves qu'il avait profondément marquées à tel point qu'il avait songé tout arrêter après avoir couvert le génocide au Rwanda au milieu des années 80. Certains lui ont reproché de trop esthétiser ces images, des critiques qu'il a toujours ignorées. Sebastião Salgado s'était beaucoup engagé également dans la lutte contre le réchauffement climatique, en sublimant des paysages magnifiques, notamment en Amazonie, faisant de ce travail un plaidoyer en faveur de ce combat. Avec son épouse, il avait fondé un projet écologique qui a permis à plus de 3 millions d'arbres d'être plantés dans son état natal de Minas Gerais, au Brésil.
Edmond Sadaka du service culture de RFI. En Coupe d'Italie, Naples, sacrée championne pour la 4e fois de son histoire, l'équipe a battu Cagliari 2-0. Naples déjà titré en 87, 90 et 2023. Football toujours, une finale au goût de répétition générale pour le PSG. Le club parisien affronte Reims demain soir. Dernier tour de Coupe de France. Une semaine tout pile avant son grand rendez-vous en finale de Ligue des Champions. Coupe des Champions, compétition entre les plus grands clubs européens. C'est la fin de cette édition. Merci de m'avoir suivi. Dans 50 minutes, vous retrouvez Christophe Pagé.